Mandrin. Deuxième partie, chapitre 15. Au présidial de Grenoble. Quelques jours après, sous l'inculpation de vol, pillage, attentat contre les agents du fisc, assassinat, etc., Jeanne d'Estenave comparaissait devant le présidial de Grenoble, tribunal de première instance qui avait le pouvoir de juger sans appel les brigandages sur les grandes routes, les vols à main armée avec violence ou effraction, les révoltes et rassemblements en armes, les levées de troupes faites sans autorisation, etc., etc. L'instruction, dont Pistolet, prudemment dissimulé dans la coulisse, tenait tous les fils, avait été menée avec d'autant plus de rapidité que l'accusée reconnaissait toutes les charges qui pesaient sur elle, et au lieu de s'en excuser, s'en faisait un titre de gloire. Bourré d'Érigny et l'exempt Rollon avaient été cités comme principaux témoins, et ils attendaient tous deux, dans une petite pièce réservée, qu'on les introduisît dans la salle des délibérations. Le fermier général semblait avoir rendu au policier sa confiance et même sa faveur, et c'était d'un air visiblement satisfait et même bienveillant qu'il écoutait les paroles que l'homme noir lui murmurait à l'oreille. Et tout en l'approuvant par des hochements de tête, il reprenait sur un ton dans lequel il n'y avait plus trace de dédain ni d'ironie. « Tout cela est fort ingénieusement combiné. » Mais êtes-vous bien certain que Mandrin ne flairera pas le danger ? Hein, monsieur le fermier général, les espions que j'ai dépêchés près de lui ont été unanimes à me déclarer, et cela sans s'être concerté, que Mandrin ignorait entièrement la révocation de la grâce. L'un d'eux a même assisté hier soir, au château de Bon Repos, à une petite scène entre cette femme et lui, mais je ne voulais pas raviver en vous de fâcheux souvenirs. Parlez, au contraire. Eh bien, voici ce qui s'est passé. Mandrin, après avoir appris par une lettre qui imitait fidèlement l'écriture de Thiénot que celui-ci allait être jugé ce jour même, a rassemblé dans la cour de son repaire une centaine de ses hommes, et il leur a déclaré qu'ils allaient franchir la frontière, sans d'ailleurs s'expliquer davantage. Au moment où il donnait le signal du départ, la personne s'est précipitée vers lui et s'est écriée « Que vas-tu donc faire ?» Mandrin lui a répondu « Je ne puis encore te le dire, mais ne crains rien. N'ai-je pas sur moi l'ordre de grâce signé par le roi ?» Et il s'est éloigné avec ses hommes. Et Pistolet de conclure « Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mandrin a décidé d'arracher Thiénot à ses juges. Avez-vous prévenu le colonel Lamorlière ?»« Je m'en suis bien gardé. » Car ce bouillant guerrier ne m'aime guère, et pour me damer le pion, il eût été capable de faire échouer notre projet. Mais j'ai pris toutes mes précautions, et cette fois Mandrin ne pourra pas s'échapper de ma souricière.
Puissiez-vous dire vrai, monsieur l'exempt, mais je ne serai tout à fait tranquille que lorsque j'aurai vu de mes yeux Mandrin roué vif par le bourreau.
Je crois, monsieur le fermier général, déclarait l'exempt avec son optimisme habituel, que vous n'aurez pas longtemps à attendre. Un huissier, entrebâillant la porte, appelait.
« Monsieur le fermier général Bourret d'Érigny !»
Le financier pénétra aussitôt dans la salle d'audience. En face du tribunal, devant une sellette de fer, Jeanne d'Estenave, à laquelle on avait rendu ses habits masculins, se tenait debout encadrée de deux gendarmes. Au fond, derrière une balustrade en chêne plein, une cinquantaine de spectateurs, parmi lesquels veillaient plusieurs représentants de la maréchaussée, suivaient les débats avec une curiosité d'autant plus vive que le bruit avait couru dans la ville que Louis XV avait fait grâce à Mandrin et à ses compagnons. Et tous se disaient, non sans logique, que, si la justice suivait son cours, c'était que ce bruit n'était pas fondé et que la guerre allait continuer entre le fameux capitaine et les fermiers généraux. Inutile d'ajouter que toutes les sympathies du peuple allaient à cette jeune femme dont la beauté étrange et l'attitude courageuse avaient immédiatement provoqué dans le public l'admiration et la pitié. Aussi, l'apparition de Bourret d'Hérigny dans le prétoire fut-elle accueillie par un murmure nettement hostile que le président Barcin de Laume s'empressa d'arrêter, menaçant, ainsi qu'on le fait encore à notre époque, au cours de procès retentissants, de faire évacuer la salle au cas où de semblables manifestations se renouvelleraient. Et ce fut au milieu d'un silence absolu que le magistrat, après avoir fait prêter serment au fermier général de dire toute la vérité, lui demanda, tout en désignant de l'index Jeanne d'Estenave, « Reconnaissez-vous cette fille ?»«
Parfaitement, monsieur le président, » répliqua le financier.
Déguisée en arlequin, elle se trouvait parmi les complices de Mandrin le jour où ceux-ci ont pénétré dans mon château des Aigles. Elle a donc participé à l'enlèvement de ma femme, et contre elle, je requiers justice.
« Accusée ?» interrogeait sévèrement le président. « Qu'avez-vous à dire ?»«
C'est exact, » déclarait Jeanne d'Estenave, impassible.
« Monsieur le fermier général, veuillez vous asseoir, » invitait M. Barcin. L'huissier appelait.
L'agent Trelon. Pistolet s'avança vers les juges, qu'il salua avec son obséquiosité coutumière, et, après avoir prêté serment, se tournant en une attitude théâtralement indignée vers l'accusé, qui le foudroyait d'un regard de mépris et de dégoût, il s'écria, donnant libre cours à sa rancœur et à sa haine, « J'affirme que, de tous les complices de Mandrin, cette femme est peut-être la plus redoutable. Elle m'a attiré dans un odieux guet-apens, et ce n'est nullement sa faute si je n'ai pas été brûlé vif par ces bandits. Mais ce n'est pas tout. Non contente de se refuser à aider l'œuvre de justice, lorsque je lui offrais son pardon en échange de renseignements qui auraient pu à la fois rendre service et prouver son repentir, elle s'est glorifiée de ses crimes. Voilà pourquoi, au nom de mon maître, monsieur le marquis d'Argenson, lieutenant de police de Sa Majesté, je supplie le tribunal de prononcer une condamnation qui fasse frémir d'horreur et d'épouvante tous ceux qui n'ont que trop d'indulgence envers de pareils monstres. » À ces mots, un grondement s'éleva parmi le public. Mais il ne se prolongea pas. Les gendarmes, essaimés parmi les spectateurs, avaient déjà saisi leurs voisins au collet, et les protestations s'éteignirent. Tous voulaient assister à la fin de cette tragique séance.
« Accusé ?» questionnait le président. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?»«
Rien, » répliquait Thiénot le berger, « si ce n'est que je suis fier d'avoir servi sous les ordres du capitaine Mandrin et que je mourrais heureuse d'avoir été assez forte pour ne pas le livrer à ses ennemis. » N'eût été la crainte d'être expulsé, le public n'eût pas manqué de souligner par de vifs applaudissements cette énergique réplique. Mais seuls les yeux parlaient. Beaucoup brillaient d'enthousiasme. Quelques-uns se voilaient de larmes.
« Il ne reste plus de témoins à entendre ?» demandait M. Barcin de Laume.
Tout à coup, une voix vibra. « Il en reste un encore !» Et, bondissant par-dessus la balustrade qui séparait le public du prétoire, un homme de haute stature, aux proportions athlétiques, les cheveux au vent, le visage illuminé d'une flamme ardente, courut vers l'estrade, tandis que de toutes parts s'élevait ce cri « Mandrin ! C'est Mandrin !» Sur un geste de pistolet, les gendarmes qui entouraient Thiénot voulurent s'élancer sur lui. Mais d'un geste impétueux, le capitaine les arrêta. Et, s'adressant au président et au juge, qui, bouleversés par cette apparition inattendue, n'en croyaient leurs yeux ni leurs oreilles, il lança « Au nom du roi, je réclame la mise en liberté immédiate de cette femme !»«
Comment, au nom du roi ?»
s'exclamait M. Barcin de Laume, cramoisi sous sa perruque blanche.
« Voici l'ordre de grâce !»
déclarait Mandrin en lui remettant le papier libérateur que lui avait donné Nicole. Le magistrat s'en empara. Et au comble d'un ahurissement que partageaient ses assesseurs, il allait en commencer la lecture. Mais Bourret d'Hérigny s'avançait à son tour vers l'estrade.
Et moi, au nom du roi, s'écria-t-il, je réclame l'arrestation immédiate de Mandrin.
Le capitaine et le fermier général, qui se trouvaient face à face, échangèrent un terrible regard.
« Vous arrivez bien tard !» ricana le révolté.
Ah, « Vraiment ?»
scanda l'oppresseur du peuple avec un sourire diabolique. Et tendant au président, de plus en plus interdit, un papier qu'il avait retiré de son habit, il fit
« Voici l'ordre par lequel Sa Majesté révoque la mesure de clémence qu'on lui avait arrachée par surprise. »
Mandrin eut un sursaut. Était-ce possible? Le roi s'était donc joué de Nicole? Car il n'était pas possible que Nicole se fût joué de lui. Au milieu de l'émotion générale, le président, après avoir pris connaissance du contre-ordre, se levait, ainsi que tous ses assesseurs, et, désignant Mandrin aux gendarmes, il s'écriait
« Qu'on arrête cet homme !»
D'un geste rapide comme l'éclair, le capitaine dégaina sa rapière, en criant
« Trahison ! À moi, mes amis !»
Tandis qu'il exécutait avec son sabre de furieux moulinet, faisant reculer la maréchaussée, que Bourré d'Irigny et Pistolet excitaient en vain de la voix et du geste, une vingtaine de ses compagnons, qui se dissimulaient parmi les curieux, se précipitaient à leur tour dans le prétoire, et, sortant des armes qu'ils dissimulaient sous leurs vêtements, ils fonçaient sur les gardes, dégageaient leur chef et enlevaient Thiénot. Affolés, les magistrats avaient pris le parti, le plus sage d'ailleurs, de disparaître par une petite porte qui s'ouvrait sur l'estrade. Quant à Pistolet, il entraînait Bourré d'Irigny au dehors en lui disant
« Partons, car ces misérables ne nous feraient pas de quartier. Mais rassurez-vous, ils vont trouver dehors à qui parler. »
L'exempt, sur le péristyle, allait éprouver une nouvelle et terrible déconvenue. Une véritable trombe humaine, formée par 80 contrebandiers, se précipitait sur les gendarmes et policiers en civil que le limier avait postés aux alentours du palais de justice. En un clin d'œil, ils étaient assaillis, bousculés, immobilisés, permettant ainsi à Mandrin et à ses autres amis de s'esquiver avec Thiénot. Le capitaine venait de remporter une nouvelle et éclatante victoire. Bourré et Pistolet écumaient de rage.
« Cet homme, grinçait l'homme noir, a fait un pacte avec le diable.
Il faut aller en hâte prévenir la Morlière, s'écriait le fermier général. Peut-être pourra-t-il rattraper Mandrin avant qu'il ait franchi la frontière. » Tous deux, peu soucieux de se mêler à la bagarre, rentrèrent dans le palais de justice et traversèrent un dédale de couloirs qui aboutissait à une porte donnant sur une rue déserte. Avisant un carrosse qui s'avançait au pas de ses 4 chevaux, ruisselant de sueur et conduit par un postillon couvert de poussière, Pistolet s'élança en criant
« Conduisez-nous au château des Aigles !»
Une tête effarée apparut à la portière. Le financier eut un cri de colère. Il venait de reconnaître Madame Malicet.
« Descendez !»
ordonna-t-il brutalement. La grosse Thérèse obtempéra aussitôt, suivie par son mari et la petite Martine. Sa première parole fut
« Et Nicole ?»
Bourré et le policier se préparaient à monter dans le carrosse, mais Madame Malicet, se cramponnant à eux, les suppliait
« De grâce, répondez-moi, et notre fille ?»
Hors de lui, Bourré d'Irigny les désignant à plusieurs gendarmes qui, attirés par les bruits de la lutte, s'empressaient, un peu trop tard d'ailleurs, de secourir leurs camarades, ordonnaient
« Jetez-moi ces gens en prison !»
Et avec Pistolet, il s'engouffra dans la voiture qui, enlevé par ses chevaux que le postillon cinglait de grands coups de fouet, partit à vive allure dans la direction du château des Aigles. Durant le trajet, le financier et l'exempt n'échangèrent pas une parole. L'instant n'était pas aux explications ni aux reproches. Tous deux rongeaient leurs freins en silence. Bourré se rattachait au frêle espoir que les cavaliers de la Morlière pourraient le rattraper à temps. Pistolet, d'abord effondré par son formidable échec, s'était vite ressaisi et ruminait déjà un autre plan. Lorsqu'ils entrèrent en coup de vent dans le grand salon, le colonel Lamorlière se préparait à passer la revue de son régiment reconstitué. qui l'attendait sous les armes dans la grande cour du château. Sans s'être concerté et animé du même désir d'en finir à n'importe quel prix avec Mandrin, ils se précipitèrent vers l'officier qui, à leur attitude, n'eut pas de peine à deviner qu'une nouvelle catastrophe venait de se produire.
« Colonel, attaquait M. d'Hérigny, savez-vous ce qui vient de se passer à Grenoble, il y a quelques instants ?»«
Ma foi, non. »«
Eh bien, Mandrin vient d'enlever à notre nez sa complice, que les juges du présidial s'apprêtaient à condamner. »
« Tonnerre !» rugit le vieux militaire. « Oh, cette fois, c'en est trop !»«
Colonel, invitait le financier, peut-être en lançant tout de suite un fort détachement de cavalerie par les chemins de traverse, auriez-vous le temps de gagner la frontière avant que Mandrin ne l'ait lui-même franchie ?»«
La frontière ?»
tonitruait la Morlière en bouclant son ceinturon.
« Mais je m'en moque !»«
Et si Mandrin passe le premier ?»« Eh bien !» Je la passerai après lui. »
Pistolet, s'avançant vers le colonel, déclarait avec l'ardeur du limier altéré du sang de sa proie,
« Et c'est moi qui vous en donnerai le moyen. »«
Vous ?»
ponctua dédaigneusement l'officier.
« Oui, »
affirmait d'Hérigny, qui se souvenait tout à coup du souterrain que Pistolet avait découvert dans les ruines de Saint-Barnabé. Et il reprit avec autorité,
« Écoutez-le, colonel, car à présent, j'en suis sûr, il ne nous reste plus que ce moyen d'en finir avec Mandrin.
« Alors, qu'il parle ?»
invitait la Morlière en fronçant ses gros sourcils.
« Suivez-moi, » fit simplement Pistolet, en entraînant Bourré d'Hérigny et la Morlière à sa suite.